est 2h du mat. Tu fais quoi au juste?
La bourse de Tokyo vient d'ouvrir. Du coup, je devais absolument vérifier l'indice Nikkei. C'est hyper important.
Oh là.
Avec les solutions d'assurance vie proposées par la Caisse d'épargne, réveillez votre épargne sans pour autant faire de nuit blanche. En confiant la gestion de votre investissement à des experts des marchés financiers, vous pouvez chercher à valoriser votre capital et être plus serein. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Renseignez-vous en agence. Contrat d'assurance vie distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, nous partons à l'hôpital, au service du patient. Et vous allez voir que pour améliorer sa prise en charge avant, pendant et après son séjour, il existe tout un tas d'innovations tricolores. Sortez la trousse, la gomme et le taille-crayon, mais aussi le compas. Depuis 1947, elle s'invite dans le cartable des écoliers. MAPED est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, si vous n'avez pas encore fait votre déclaration de revenus, c'est peut-être le moment de vous y mettre avec une solution pour vous aider. C'est Tacotax, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez décrocher votre téléphone car nous entrons ensemble aujourd'hui à Nissa, à l'hôpital. Dans la peau du patient.
Oui, et si vous avez des questions sur les équipements de santé français, n'hésitez pas à venir les poser aux invités de Raphaël Duchemin dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et vous décrochez très vite votre téléphone. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Et oui, car en ce moment ont lieu en France tout un tas d'événements autour de l'hôpital justement. Alors nous avons eu à La France Bouge envie de nous intéresser à ceux qui essayent justement d'améliorer les séjours pour les accueillir. À mes côtés, il y a comme tous les jours Elisabeth Assayac, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et je suis ravie d'accueillir une nouvelle coach dans l'équipe. C'est Mercedes Serra, cofondatrice de l'agence BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoints. On a tous, c'est vrai, un jour râlé, vous serez d'accord, en allant voir notre père ou notre grand-mère à l'hôpital, sur le plateau repas, sur les services, sur la qualité des soins qui pouvaient être apportés ou la rapidité avec laquelle une infirmière pouvait éventuellement arriver jusqu'à la chambre. Bref, sur la prise en charge des patients. En partant du vécu justement, une équipe a eu l'idée de bouleverser un peu les choses. C'est la vôtre, Romain Révéla, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé Hapital, c'est un mix entre happy en anglais et hôpital en français. Comment vous est venue cette idée, en partant justement d'expériences personnelles?
Oui, tout à fait. Donc on a eu avec mes deux associés en fait des proches qui ont été hospitalisés et on a été confrontés à ce que vous décriviez, un hôpital stressant, austère et où très souvent aujourd'hui les familles sont quand même éparpillées partout en France et on est assez loin de ses proches et avec une véritable impuissance pour nous en tout cas de pouvoir redonner du sourire à nos proches qui étaient hospitalisés à l'époque, alors même que le sourire ça aide au moral et en partie à la guérison. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée et cette volonté de transformer l'hôpital et d'apporter une vision un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, une vision qui était très tournée sur le patient. Et de se dire, on va se concentrer sur le patient avant tout.
Alors, on est en 2013 à l'époque, quand tout démarre. Vous êtes à l'époque déjà un peu dans les conseils aux hôpitaux. Du coup, vous dites, il y a un vrai vide sur cette question, on va essayer de le combler et vous commencez à réfléchir à des solutions pratiques.
Tout à fait. Et on y allait très rapidement, en fait, avec l'opportunité de tester sur un hôpital de l'Île-de-France. Et on est allé tester physiquement. Donc, avec mon associé, on a passé une année au sein de l'hôpital à accompagner les patients, donc avec des services
avec
plutôt...
Avec une conciergerie au départ.
Conciergerie, voilà, au démarrage. Donc, vraiment très tourné autour du service qui manquait pour nos proches.
Qu'est-ce qu'on vous demandait, par exemple?
Ça va de la grand-mère qui va rester un mois et qui a un besoin vital, entre guillemets, de refaire sa couleur pour son moral. Et qui historiquement va harceler en fait l'aide-soignante jusqu'à temps qu'elle lui trouve une solution. Au sushi de la maman qui s'est privée pendant 9 mois et qui n'a qu'une envie, c'est remanger du saumon frais. À également en fait des personnes, pas mal de sujets autour des personnes âgées, mais qui vont arriver par les urgences avec des habits souillés. Les soignants qui mettent les habits dans un sac poubelle dans la chambre et les proches qui ne sont pas là. Donc pouvoir traiter ça et juste faire nettoyer le linge et redonner un peu de dignité aux patients.
Ça, c'est la première étape, le premier étage de la fusée Hapital. Très vite, vous allez élargir finalement vos services. Comment ça se décide et qu'est-ce que vous allez apporter de plus ?
Et très vite, en effet, on s'est rendu compte que le service était clé, mais qu'il y avait en fait un besoin d'adresser des demandes directement aux patients, mais aussi d'aider grandement en fait les institutions au sens large, donc les hôpitaux publics où on est aujourd'hui, à avoir les bons outils, notamment, et les bons process pour accompagner le patient tout au long de son parcours. L'expérience, ça passe par le service, mais pas que. Ça passe aussi par l'expérience de la digitalisation qui est quand même essentielle aujourd'hui. Et donc, on a remonté en amont ce parcours du patient avant son hospitalisation pour l'aider à faire le lien.
Remplir les papiers, remplir tout ce qui était administratif.
Le faire en ligne et puis avoir à poser une demi-journée. Faire le lien avec la mutuelle et l'assurance. Aujourd'hui, je mets au défi également parmi vous de savoir en fait quel est vraiment le niveau de prise en charge d'une mutuelle. Donc, c'est vraiment déchiffrer ça et le digitaliser pour le donner aux patients.
Oui, et puis ça peut varier d'une mutuelle à l'autre aussi.
Ça varie d'une mutuelle à l'autre et d'un assuré à l'autre. Gérer la demande de chambre individuelle en amont, qui est une des premières demandes des patients que d'être seul et tranquille en chambre. Et ensuite, on est aussi redescendu dans le parcours du patient sur la sortie et pouvoir aussi créer cette expérience sur le retour au domicile qui est essentiel. Plus d'un patient sur deux aujourd'hui va être entre guillemets traumatisé, soit moyennement, soit grandement, suite à une hospitalisation. Donc c'est l'aider à réaménager son mode de domicile, par exemple, ou trouver des aides-soignantes au domicile.
Elisabeth, on s'aperçoit quand on regarde un peu plus près qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux qui finalement s'emparent d'objets innovants pour essayer de faire changer les choses.
Tout à fait, et notamment vous parliez des personnes âgées, c'est souvent le cas au sein de pôles en gérontologie ou pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, à l'hôpital Paul Brousse, justement au sein du pôle gériatrie, depuis 2014 déjà, donc depuis un petit bout de temps, vous avez plusieurs objets pour les personnes âgées, notamment un chariot zen, un chariot avec des petites colonnes à bulles, des longues fibres optiques colorées, une petite musique d'ambiance, des huiles essentielles, le tout sur des roulettes pour apaiser l'agitation qu'il peut avoir parfois dans certaines chambres. Vous avez même un globe qui projette des images au plafond. C'est apparemment très efficace pour captiver les patients, notamment pendant le temps de la toilette. Vous avez aussi une sorte de robot en forme de phoque, en forme de peluche, qui reconnaît les voix, qui détecte les caresses. Très efficace aussi pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ou encore des sacs, le sac d'Augustine, là aussi pour soulager le patient. C'est un outil thérapeutique qui a été conçu par une infirmière française. Et à travers le toucher, les patients manipulent des morceaux de satin, de coton ou de tulle pour les apaiser et faire en sorte que ce moment passé à l'hôpital soit le plus ou le moins désagréable possible.
Mercedes Serra, que vous inspire l'expérience hôpital ?
D'abord, je trouve qu'on est sur un sujet fondamental où aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus difficile, qu'on trouve avec difficulté des soignants, qu'il y a une tension dans l'hôpital et se faire soigner, ça veut dire détendre. Parce que si vous êtes dans un état de nervosité, vous ne vous en sortez pas. Et on sait à quel point le bien-être fait partie du remède. Donc c'est une sacrée expérience, c'est assez enthousiasmant d'imaginer que votre métier, c'est d'apporter un peu de joie à des gens qui sont fragilisés. Sauf que c'est une sacrée expérience. En tout cas, je suis persuadée qu'on est là sur un sujet clé. On a aussi une population qui grandit, qui vieillit. On vit de plus en plus longtemps.
De plus en plus vieux, oui.
Et comment on fait pour être en état ? Comment on fait pour que le moment du soin soit un moment cordial ? Ça, c'est en tout cas, c'est un sacré job que fait Romain.
C'est une réelle prise en compte, et parce qu'on s'aperçoit que au départ, vous avez démarré, vous le disiez, petit dans un hôpital en test, mais aujourd'hui, vous êtes dans une centaine d'hôpitaux en France.
Tout à fait, oui.
Et vous avez 25 000 patients par mois qui utilisent vos services.
Tout à fait. Donc ça, c'est les chiffres les plus récents, mais ça cesse de croître parce que on ouvre de plus en plus d'hôpitaux. Aujourd'hui, on ouvre entre 5 et 10 hôpitaux par mois. Donc il y a une vraie traction hôpitaux pour traiter ce sujet-là. Et juste pour rebondir ce que vous disiez, Mercedes aussi, le fait d'apporter du sourire aux patients, ça recrée en fait du lien aussi entre le soignant et le patient. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est à titre anecdotique, mais beaucoup de patients qui offrent en fait des cadeaux aux soignants pour les remercier d'avoir pris soin d'eux. Et donc ça apporte quand même aussi, ça apaise les tensions qu'on peut avoir du quotidien.
Ça guérit de se faire du bien comme ça.
Tout à fait.
On reste ensemble et on continue à regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Il est 13h09.
Europe 1.
Raphaël Duchemin.
Mieux accueillir, mieux communiquer pour mieux accompagner, c'est aussi le credo d'Open qui aide les établissements à faire, vous allez le voir, leur conversion digitale. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, nous découvrons les innovations françaises pour améliorer l'hôpital et nos établissements de santé. C'est à l'occasion d'Hôpital Expo et Paris Healthcare Week. C'est jusqu'au 23 mai. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
C'est vrai que quand on est dans un lit d'hôpital et qu'on doit y rester des semaines, voire des mois, le temps peut paraître long, très long. Alors, pour occuper ces journées, deux amis ont eu l'idée de créer notamment des tablettes. Bonjour Mathieu Malédan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un peu comme ça que démarre finalement l'aventure Open, qui au départ s'appelle Télécom Santé. On est en 2011 et je crois que c'est votre binôme de fac qui est hospitalisé à Rennes et vous avez, vous, l'occasion de mesurer son isolement, son ennui, justement.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que Cédric, qui était mon binôme de faculté, a été hospitalisé pendant plusieurs mois au CHU de Rennes, qui était, voilà, j'habitais juste à côté. Et donc, j'ai pu mesurer à la fois la quantité d'isolement et la quantité également d'ennui qui accompagne des hospitalisations de cette durée. Et donc, dès le début, on s'est dit avec mon associé Sébastien que il y avait quelque chose de beaucoup mieux à proposer, même si en 2011, les tablettes n'étaient pas encore un sujet complet.
Oui, on n'est pas encore avec l'iPad à tout le champ, toute la journée. Voilà. Mais vous travaillez déjà dans les télécoms. Et c'est aussi pour ça que vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une marche à prendre.
Bien sûr. On identifie tout de suite que la capacité à amener du divertissement au lit du patient dans des tarifs raisonnables, parce qu'il y a quand même ce sujet très, très important, était tout à fait possible. Et donc, on avait vraiment la capacité à rompre cet isolement, à la fois sur les aspects de communication, mais également sur les aspects tout simplement de divertissement et de passer la journée. Et encore une fois, s'aérer l'esprit. Et on en parlait tout à l'heure avec Romain, et Mercedes l'a bien souligné, et donc mieux guérir.
En 2012-2013, vous commencez donc à digitaliser, d'abord avec des tablettes au service du patient. Et puis très vite, vous allez vous apercevoir que finalement, ça peut aussi servir au personnel soignant.
Voilà, exactement. Avec notre historique plutôt industriel, on a donc passé plus de temps dans les hôpitaux qu'on ne connaissait pas. Et on a vu que le fonctionnement interne pouvait certainement être amélioré pour le bien-être à la fois du patient, mais également du personnel, qui faisait beaucoup de kilomètres dans les couloirs, qui ne passait pas beaucoup de temps devant les patients. Tout ça parce que c'était assez mal organisé.
Vous dites on réduit les délais, par exemple, avec ce système de tablette aujourd'hui. Une infirmière qui faisait 6 kilomètres dans les couloirs, elle réduit son temps passé à marcher. Elle n'en fait peut-être plus que 4 et donc elle a du temps libre pour être auprès du patient.
Exactement, exactement. Des établissements nos clients les plus digitalisés sont passés du 30% du temps devant les patients à 55% du temps pour le personnel soignant. Et par essence, ensuite, on a rajouté beaucoup d'applications métiers qui permettaient d'optimiser le reste des processus en termes de traçabilité. C'est un lieu assez technique, un hôpital. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, notamment
dans la
chambre.
Donc, vous avez fait du sur-mesure à l'intérieur des tablettes ?
Alors,
chaque métier a finalement une tablette compatible ?
Alors, la tablette est unique dans la chambre. Par contre, chaque métier a son application, plus ou moins sécurisée d'accès. Évidemment, le patient, lui, il y accède directement. Évidemment, quand on va parler de dossier médical, etc., il va falloir des choses beaucoup plus sécurisées. Et en fait, derrière chaque intervenant, puisque c'est autour du lit du patient que les choses se passent, on va pouvoir remonter toute la chaîne de traçabilité, améliorer infiniment les processus de l'établissement.
Oui, parce que vous vous étiez aperçu aussi qu'il y avait finalement 25 dossiers ouverts alors qu'on aurait pu en ouvrir qu'un et que toutes les informations n'étaient pas forcément regroupées au même endroit.
Exactement. Chaque métier avait en fait des applications en silo. Tout ça ne convergeait pas et ne permettait pas finalement à l'établissement de piloter son activité comme on le ferait dans n'importe quelle autre activité.
Mercedes, que dites-vous de Open ?
Ce qui est formidable, je trouve, c'est le croisement entre finalement une digitalisation et plus d'humanité. C'est-à-dire que en fait, le digital là, c'est pour simplifier, pour accompagner le temps des gens, pour accompagner les tâches, pour libérer les gens des choses les plus importantes, savoir avoir une relation humaine, pouvoir parler, ce qui est fondamental dans les soins finalement aujourd'hui. Donc, on voit très, très bien, souvent, on oppose cette digitalisation avec de l'humanité. Et je trouve que dans votre cas, on voit très bien que ça s'accroche bien et qu'au contraire, c'est une simplification des choses, une meilleure compréhension, une meilleure organisation pour plus de temps à passer et pour plus de sérénité aussi pour le soignant. Parce qu'il y a un moment donné, on veut aider celui qui est soigné, mais le pauvre soignant, il faut qu'il soit calme aussi, parce que tout ça se transmet formidablement.
Et on voit bien avec l'actualité que c'est un métier compliqué, donc il faut vraiment prendre soin des soignants.
C'est pour l'amélioration des conditions de travail des soignants.
Exactement, mais c'est très important. important ce que vous dites, c'est-à-dire que l'a priori, effectivement, va vers... ça va être un peu déshumanisé, etc. Oui. Et ils comprennent rapidement qu'en fait, on s'adresse surtout aux tâches de moindre valeur ajoutée. Et donc, au contraire, on rend du temps sur les éléments irremplaçables que sont la relation humaine.
Vous avez un exemple concret, justement, de ce qu'il y a dans les tablettes, pour le patient, par exemple, et puis pour l'infirmière ?
Alors, pour les patients, je vais aller très, très vite, parce que là, on a tous des tablettes maintenant.
Ce sont les mêmes fonctionnalités.
Voilà, on va avoir la télé, les différentes applications, les jeux, etc. Mais on va aussi avoir des éléments déjà un peu en lien avec l'établissement, tout ce qui va être commande de repas, achat de conciergerie, etc. Et puis, du côté des soignants, on va avoir vraiment tout type de traçabilité. L'exemple dont on parlait avant, c'était... la traçabilité du bio-nettoyage. Alors, ça paraît tout bête, mais finalement, ça rend la chambre immédiatement disponible. Et quand vous avez des durées de séjour qui ne font que se raccourcir, si vous perdez une demi-journée juste parce que vous ne savez pas que la chambre a été nettoyée, eh ben, vous avez à la fin de votre année 16% de votre chiffre d'affaires en tant qu'établissement de santé que vous ne pouvez pas faire.
Donc, il y a des économies aussi qui sont réalisées. Vous avez changé de nom récemment parce que vous souhaitez vous implanter à l'international ?
Exactement. On avait un nom historique qui était franco-français.
Oui, Télécom Santé.
C'était bien, mais ça passait peu les frontières.
Télécom Santé.
Alors, Télécom, ça passe bien les frontières. Santé, moins. Donc, voilà. Et donc, effectivement, on a beaucoup internationalisé le nom parce qu'on avait fait nos premières ventes, hein, à la fois en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient. Et donc voilà, il fallait vraiment se structurer, se donner une image de marque
donc,
compatible.
Open pour hôpital ouvert, en quelque sorte.
Hôpital ouvert. Et le tout aussi important, la baseline Time to Care, qui est justement de redonner du temps pour prendre soin et qui est vraiment le fondement de ce qu'on cherche à faire avec Sébastien.
On est à l'hôpital, on pourrait aller voir avant et après aussi. Mmh. Elisabeth, vous avez trouvé pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour le suivi pré- et post-ambulatoire.
Oui, très important. Hein. Par exemple, vous avez Hospice Service, un dispositif de Hospice Grand Ouest. C'est un opérateur mutualiste qui a été fondé en 2010 et qui a mis au point un dispositif pour aider les patients à préparer leur hospitalisation, mais aussi leur retour à la maison. Il s'adresse aussi bien aux jeunes parents qui viennent d'avoir un bébé, qui ont des enfants encore en bas âge à la maison et qui ont besoin d'être organisés, mais aussi des personnes âgées qui ont un conjoint qu'on doit aider. Et là aussi, il faut trouver une aide. Et donc, Hospice Service, c'est une plateforme téléphonique accessible via un numéro non surtaxé. Vous avez à disposition une équipe dédiée et chargée d'orienter les patients vers plein de prestataires, de transmettre de la documentation. On peut préparer des repas, livraison des courses, aide au ménage, surveillance à domicile ou alors encore une autre plateforme, Liberos, L-I-B-H-E-R-O-S. Elle a 2 ans, elle est en ligne et elle permet à tous les patients, tous les types de patients et de proches partout en France, là aussi, d'organiser des soins à domicile en poste ou en pré-consultation médicale.
On reste ensemble et on continue à trouver les innovations qui nous changent la vie aujourd'hui à l'hôpital.
Et il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Attendre des heures aux urgences, dans des services qui manquent de bras, ça nous est tous arrivé. Alors pour régler la question du sous-effectif en milieu hospitalier, À tout job s'est créé. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, vous nous faites découvrir les innovations françaises pour améliorer l'hôpital et nos établissements de santé français. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Et s'il y a bien un casse-tête dans les hôpitaux, c'est le recrutement. Quand une infirmière tombe malade, qu'un médecin s'en va, il faut trouver quelqu'un parfois en urgence ou demander à l'équipe de gérer plus de patients dans des services qui sont déjà à flux tendu. C'est vrai que c'est compliqué. Bonjour Karim Fadloun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé À tout job. Alors A avec un 2 hein, pour le tout job. C'est une plateforme en ligne pour recruter le personnel soignant et socio-éducatif. Je crois que votre maman travaillait dans le social. C'est pour ça que vous avez eu cette envie. Vous avez toujours baigné dans cet univers-là.
Absolument. Et elle est à la retraite depuis près d'une semaine. C'est vrai que j'ai connu ce secteur à travers aussi son expérience. Et j'ai été frappé par les difficultés ensuite en tant que travailleur social, hein, pendant près de 5 ans dans la protection de l'enfance, les difficultés liées aux ressources humaines, au niveau de l'absentéisme, de la difficulté à remplacer et à recruter
sur le
long terme.
Mais pourquoi aller vers l'hôpital ?
Pourquoi aller vers l'hôpital ? Parce que pour avoir échangé avec des professionnels de santé, notamment infirmiers et aides-soignants, on s'est rendu compte qu'on souffrait des mêmes maux, à savoir justement c'est cette difficulté de le travail en sous-effectif, l'absentéisme et le turnover très important. Donc, de là, l'idée de créer une plateforme qui puisse répondre à tous nos collègues soignants et travailleurs sociaux.
On est en 2012 ?
On est en 2015.
2015.
2015, quand on réfléchit à ToutJob et en 2017, à ToutJob est créé.
Pourquoi est-ce que les gens vont aujourd'hui passer par vous, par ToutJob, plutôt que par les sites d'offres d'emploi classiques? C'est plus ciblé, c'est plus spécialisé, ça va plus vite?
Bah, contrairement déjà à un site d'offres d'emploi classique, un job board, parfois généraliste, parfois plus spécialisé, on va aller beaucoup plus loin que simplement le dépôt de CV sur un site. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre en relation réellement donc ces professionnels avec ces établissements. Pour donner l'exemple, le fonctionnement sur notre plateforme, un employeur va s'inscrire sur ToutJob et définir une offre de mission en 30 secondes. Voilà, j'ai besoin d'une infirmière en service pédiatrie, l'hôpital en Saint-Denis, par exemple. J'ai besoin de quelqu'un dans un rayon de 20 km, etc. Tout de suite, cette offre va être envoyée par SMS à tous les candidats qui correspondent en termes de compétences, localisation et disponibilité. Tous les candidats qui répondent positivement ensuite sont notifiés dans le tableau de bord. Et ensuite, l'employeur n'a plus qu'à faire son choix parmi la sélection.
Parce que vous avez créé en amont des questionnaires qui permettent d'affiner véritablement.
Exactement. Alors en amont, là c'est vraiment, je vous ai parlé du côté employeur, mais du côté candidat, les candidats s'inscrivent sur la plateforme, ils doivent remplir un formulaire assez dense où ceux-ci vont être disponibles qu'à partir du moment où ils ont rempli à partir de 85% de complétude du formulaire. Et ensuite, ils sont présélectionnés, préqualifiés pardon, par nous. C'est-à-dire que moi, je suis ancien travailleur social, donc plutôt les profils éducateurs, les profils assistants sociaux et autres travailleurs sociaux. Et je travaille aussi avec trois infirmières et une aide-soignante pour qualifier les profils soignants.
Oui, comme ça, vous balayez véritablement le plus large possible pour avoir tous les...
Absolument, le sanitaire, le social et le médico-social.
Vous avez une quarantaine d'hôpitaux aujourd'hui qui travaillent avec
Exactement.
Vous ?
Exactement. Enfin, pas seulement des hôpitaux, ça va être aussi des cliniques, des EHPAD, des établissements sociaux, les collectivités également.
Que dit Mercedes Serra sur cette expérience à ToutJob qui est véritablement quelque chose de précis, hein, de très ciblé?
Oui, et très important parce que d'abord, il y a un enjeu aujourd'hui de l'emploi, hein, de toute façon, hein, pas que dans les hôpitaux. Donc, c'est très important de retrouver de l'adéquation pour les gens, pour le travail. Hein. Moi, je pense que c'est une vraie cause nationale. On a eu des chiffres là récemment qui montrent que les Français ne sont pas tellement sensibles aux chiffres de chômage. Mais quand même, c'est un des enjeux les plus graves de la France. Et alors, les hôpitaux, c'est difficile parce qu'on pense que c'est les mêmes métiers, mais pas du tout. En fait, vous avez beaucoup de métiers dans l'hôpital et beaucoup de sensibilité. Ce n'est pas la même chose que soigner un autiste, que de prendre charge une personne âgée. Et donc, ça demande une sophistication. Et je pense que c'est une sacrée aide de trouver les gens qui peuvent vraiment assumer ces fonctions.
Elisabeth, vous avez toujours sur le recrutement trouvé des éléments, oui, qui nous montrent, hein, qu'effectivement on manque de personnel.
Mais on manque complètement de personnel, hein. Ça fait 15 ans que le personnel en charge des patients est en crise, hein. On assiste là, en ce moment, à des grèves illimitées, notamment dans les services des urgences, pour dénoncer ce manque de moyens humains. Pour vous donner une idée, rien qu'en Île-de-France, dans les hôpitaux de la PHP, il manque aujourd'hui 400 infirmiers. Il y a 2-3 ans, il n'y avait pas autant de tensions pour recruter. Il y a un phénomène qui avait déjà été observé dans les années 2000 et qui là semble revenir un petit peu à son début. En tout cas, c'est ce que disent les experts. Alors pourquoi ? Ben parce que ce sont des métiers de soins qui sont jugés fatigants, éreintants. C'est pour ça que votre solution avec Open vient tombe à pic. Mal payé, il faut le dire. Le coût de la vie a augmenté et il y a la concurrence aussi des pays frontaliers. Donc tout ça, pour tous ces motifs, depuis quelques mois, on assiste à cette grande difficulté de recruter du personnel dans les hôpitaux.
On reste ensemble et on continue à parler de l'hôpital aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend au 39-21, toujours bien sûr, le standard d'Europe 1. Et sur Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse aux innovations françaises pour améliorer l'hôpital et nos établissements de santé. Si vous avez des questions, des réactions, c'est maintenant. On vous écoute, on vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis pour vous faire entendre sur Europe 1, c'est le 39-21, le standard, Raphaël.
Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne. Mercedes Serra est notre coach aujourd'hui. Et puis nos invités, Romain Revella, qui est cofondateur d'Apital, une start-up spécialisée dans l'amélioration du quotidien des patients dans les établissements de santé. Mathieu Malédan, président fondateur d'Open, qui accompagne ces établissements de santé dans leur digitalisation. Et Karim Fadloun, président fondateur d'AtoutJob, plateforme en ligne de recrutement des personnels soignants et socio-éducatifs. J'ai quelques questions à vous poser qu'on n'a pas forcément abordées. D'abord, peut-être avec vous, Romain, on a parlé d'économie que peuvent faire les établissements de santé. Vous aussi, vous avez remarqué que grâce à votre solution, il y avait effectivement des économies de réaliser.
Tout à fait. Et ça, c'est une approche assez atypique qu'on a pu avoir il y a maintenant plus de 5 ans, de se dire pourquoi on n'aurait pas le droit de réfléchir création de valeur à l'hôpital, au sens large, sans tabou. Et donc, on est arrivé dès le début, en fait, dans cette logique-là, de se dire ben, on est là pour vous accompagner, créer de la valeur pour l'hôpital, créer de la valeur pour le patient, et ensuite de la valeur économique, bien sûr, pour notre entreprise, pour qu'elle soit pérenne. Et donc, cette logique de créer de la valeur sur long terme, ça a été vraiment le point d'entrée de notre modèle économique. Et aujourd'hui, sur les 5 dernières années, là, à la fin de l'année, on aura atteint 100 millions en fait, de recettes nettes additionnelles pour les établissements qu'on accompagne. Et dans une logique de recettes, je parle bien aussi, qui est aussi une façon de voir les choses peut-être plus positive que des fois du cost-cutting. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et dont on est assez fiers de pouvoir redonner du souffle aux hôpitaux. On parlait de crise de soignants et tout ça, et souvent, c'est réinvesti aussi dans des sujets vraiment cœur métier.
Vous êtes 400 aujourd'hui, vous avez des équipes Apital hein, dans les établissements et vous dites on devrait arriver sur les 3 prochaines années à être présent dans 600 à 700 établissements, c'est ça ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment une très forte traction. Donc on est en effet 400, on a 300 personnes qui sont au quotidien au contact des patients. Pour nous, ça c'est aussi important d'oser mettre des personnes et de créer un nouveau métier au contact des gens qui sont hospitalisés. Et on a une centaine de personnes au siège qui nous aide à structurer tout ça et surtout à innover et donc aussi à aller ouvrir de nouveaux hôpitaux. Donc on a l'objectif en effet d'atteindre 600 établissements sur les 3-4 prochaines années, et là on se lance aussi sur le secteur des EHPAD. On en aura une dizaine d'ici l'été.
Même question pour vous, Mathieu. C'est vrai qu'on parlait des effectifs. Vous aussi, vous avez démarré à 2, hein, petit. Aujourd'hui, vous êtes 45, mais il y a de forts développements attendus également parce que vous êtes présent aujourd'hui à l'international. En tout cas, ça commence avec l'Angleterre et le Moyen-Orient.
Voilà, tout à fait. On est 45 aujourd'hui. On a doublé notre chiffre d'affaires l'an dernier. Donc, on a également une traction qui est assez intéressante sur les aspects back-office. Et après, il y a un certain nombre de sujets, mais qui font vraiment plaisir à l'ensemble des salariés. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 500 000 patients qui passent devant nos écrans chaque année. Donc, c'est quelque chose de fondamental. On sait à quoi ça sert. Ça concerne vraiment aussi toute l'entreprise qui est ravie de porter cet atout.
Karim, vos projets à vous, quels sont-ils ? Vous nous avez dit que vous étiez présent effectivement dans les différents établissements de santé. J'avais aussi une question sur votre mode de rémunération. Ouais. Comment est-ce que vous faites ? Qui est-ce qui vous paye finalement ?
C'est totalement gratuit déjà pour les candidats.
Oui.
Parce que comme vous l'avez dit, c'est des métiers qui ne sont pas
qui s'abonnent.
Très bien rémunérés. Donc, ce sont plutôt les employeurs évidemment qui vont régler la facture sur du placement. Donc évidemment, que ce soit du remplacement d'urgence ou du recrutement sur du long terme, la facture est différente.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler de l'hôpital et de ce qui est en train de changer grâce à vous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble. Vous avez déjà, je suis sûre, effacé sur vos cahiers d'écoliers avec l'une de ces gommes. Maped, le leader des fournitures scolaires, est français. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, vous nous proposez de découvrir l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, on retourne tous sur les bancs de l'école avec une entreprise qui va nous rappeler bien des souvenirs.
Oui, cette entreprise, elle en a vu défiler des écoliers depuis 1947. Bonjour Antoine Lacroix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur Europe de Maped, qui signifie manufacture d'articles et de précision de dessin. C'est votre grand-père qui, après-guerre, crée cette entreprise dans la vallée de l'Arve, et ça n'est pas un hasard, parce que là-bas, on sait faire des objets de précision.
Oui, tout à fait. La vallée de l'Arve est connue pour l'industrie du décolletage, une industrie par enlèvement de matière, qui effectivement a vocation de fabriquer des pièces de précision pour l'horlogerie, pour la, les manufactures, pour les laboratoires, le pharmaceutique de plus en plus.
Et c'est comme ça qu'arrive le premier compas.
Alors c'est le premier compas MAPED en tout cas, le produit existait avant, on ne l'a pas inventé, mais on en est devenu un des leaders à une époque, la deuxième partie
mais
du XXe siècle.
Mais c'est le premier produit qu'il fabrique.
C'est notre activité pendant 50 ans, on est monoproduit et c'est un produit qui orne n'importe quel bureau d'un concepteur, d'un architecte, d'un designer, à une époque où la conception graphique, la conception 3D se fait à partir d'un produit très technique et donc c'est notre principal produit et vecteur de chiffres jusqu'à la moitié des années 80.
Donc au départ, il est destiné à des professionnels et puis très vite, il se démocratise grâce à votre grand-père. C'est lui qui le fait entrer dans nos cartables, dans nos trousses ?
Alors, il y a un tournant à la moitié des années 80, avec l'informatisation, la digitalisation des développements, de la conception. Le compas n'a plus vraiment sa place. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un architecte se serve d'un compas au quotidien. Donc, la vocation du produit dérive vers une application presque 100% scolaire. Et donc, c'est à partir de la fin des années 80 qu'on aborde le tournant de la diversification de nos offres. On lance pratiquement une nouvelle famille par an. Hein, mmh. Ce sera
là, c'est votre
crayon,
père qui reprend.
Ça, c'est mon père,
qui
la deuxième génération qui fait cet élargissement de l'offre. On devient un leader français et maintenant un des leaders mondiaux de l'accessoire scolaire au sens large, hein, le contenu de la trousse de l'écolier.
Et c'est lui qui va justement développer l'international, votre père.
Et dans le même temps, effectivement, on crée beaucoup de filiales. Encore récemment, on est plus dans une phase de consolidation, mais jusqu'à 2005, on a créé notre 20e filiale en Turquie. On est maintenant une entreprise très internationalisée. On fait 80% de notre chiffre hors de la France et la moitié hors de l'Europe, donc avec une forte répartition géographique.
Je regardais, puisque vous parlez des chiffres, il y avait dans les années 80, on était encore en francs, 80 millions de francs de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros.
Oui, c'est ça. On a connu une croissance forte sur les années 2000 et 2010. L'entreprise a quadruplé de taille depuis 2000. Au travers effectivement la diversification de nos offres, on a lancé le coloriage et l'écriture en 2006. Tout le monde pensait qu'on en faisait à l'époque. On s'est rendu compte qu'on avait une légitimité sur ce marché et ça pèse aujourd'hui à peu près 30% de notre chiffre et c'est le gros vecteur de développement de nos activités.
Mais ce sont des activités qui ne sont pas fabriquées en France. Vous avez choisi de rester dans la vallée de l'Arve du côté d'Annecy avec 250 collaborateurs uniquement pour les gommes, pour les fameux compas dont on parlait tout à l'heure, mais pas pour le reste.
Tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Les activités historiques sont toujours localisées à Annecy. On fabrique 45
Parce
millions de gommes à Annecy.
Il y a le savoir-faire
de l'extrusion. C'est une matière molle qui passe à travers de filières d'extrusion, comme votre pâte à modeler de votre enfance, et qui est refroidie, embossée, paquée, découpée, de manière très automatisée, en sortie de chaîne. On a 4 filières comme ça, qui fabriquent chacune 10 millions de gommes à peu près, qui sont vendues partout dans le monde, à des conditions de compétitivité qui permettent de rencontrer le consommateur indien, le consommateur argentin. Et c'est aussi le cas des compas techniques qui sont toujours fabriqués, compas acier, qui sont fabriqués dans nos ateliers annéciens, en Haute-Savoie.
Mais pas le reste. Le reste, c'est en Chine, au Mexique, en Allemagne. Chacun
voilà.
A sa spécificité.
Oui, on a des sites relativement spécialisés. On fait des produits de bureau en Allemagne. On fait des produits, on fait de la colle, des formulations chimiques en Argentine. On fait de l'injection, de la plasturgie au Mexique. Et on a un très gros site à Kunshan, du côté de Shanghai, qui rassemble beaucoup de nos savoir-faire aussi, dont les nouveaux savoir-faire de la couleur, par exemple.
Mercedes Serra, notre coach.
Alors moi, j'ai une grande question. Les gommes, c'est tout pareil dans le monde ? Où il y a des gommes différentes selon les pays, les gens.
Elle est fan de fournitures scolaires.
Elle est fan effectivement de doodling, de crayonnage divers. J'ai cru le comprendre. La gomme, il y a autant de formats que de pays, que de formulations, que de formes, que de textures. Il y a un nombre de formats de marché très important. C'est un peu le cas de nos familles. Il y a des fortes particularités locales. Et il y a autant de marques leaders dans chaque pays. Autant on est leader en France, autant c'est beaucoup plus difficile sur d'autres pays. En Espagne, on est des nains sur les gommes, alors qu'on est un leader sur la plupart des autres activités scolaires. Donc c'est une bonne question. C'est une grande diversité.
Étonnant. Et aujourd'hui, votre plus gros marché, c'est celui de quoi ? Du compas, de la gomme, du crayon ?
Alors, en volume, le plus gros marché aujourd'hui, c'est celui du taille-crayon. Vous parliez aussi de...
J'ai une grande expertise. Il faut des bons taille-crayons.
C'est vrai, effectivement. Alors, on les teste. Ils ont des tests draconiens. On le nombre de tailles, l'usure de la lame.
On les fait où, ces taille-crayons ?
Alors, ils sont fabriqués en Chine, chez nous essentiellement. Un petit peu au Mexique, maintenant. On a des transferts technologiques du côté du Mexique. On fabrique près de 100 millions de taille-crayons par an, pour vous donner une idée des volumes.
J'ai une question pour revenir à la famille. C'est 100% famille, hein, le capital. Ça n'a pas bougé depuis le début.
Il est majoritairement familial, il n'est pas 100% famille. On a un investisseur institutionnel qui est minoritaire et qui est un fonds lyonnais qui s'appelle Siparex.
Mais vous n'avez pas voulu l'ouvrir. C'est relativement fermé et c'est fait exprès.
Effectivement, c'est un capital historiquement familial qui le demeure et qui nous permet d'être libre, de faire ce qu'on veut, d'être indépendant dans notre stratégie et de penser long terme. Et je pense que nos salariés y sont très attachés.
Et vous avez aussi pris le tournant du digital, le tournant des tablettes. C'était important de s'inscrire justement dans l'avenir ?
Oui,
les petites tablettes pour les enfants.
Oui, tout à fait. Alors, on a des applications pour tablettes, effectivement, des applications de coloriage qui essaient de faire le meilleur mix entre le coloriage manuel et son extension, son enrichissement dans le monde digital. Et c'est vrai que la digitalisation des enseignements, le e-learning, pose beaucoup de questions et nous oblige d'une certaine manière, même si on n'est pas au pied du mur aujourd'hui, on ne voit pas de déconsommation sur nos marchés. Pour autant, on va vers de nouvelles activités, on diversifie notre offre pour...
Vivre avec votre temps, tout simplement.
Aussi, vivre avec notre temps, nous adapter, effectivement.
C'est MAPED, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous faites peut-être partie de ceux qui doivent remplir leur déclaration de revenus d'ici ce soir. On a la solution pour vous aider, c'est Tacotax. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous présentez la solution du jour. Elle est d'actualité pour ceux qui sont en plein dans leur déclaration d'impôt.
Et oui, parce que la déclaration de revenus n'a pas disparu, vous le savez, hein, avec la mise en place du prélèvement à la source. Et la date limite pour certains d'entre vous, c'est ce soir minuit. Elisabeth, vous avez trouvé une solution ? Tacotax.
Tacotax, c'est une société de conseil en ligne, une sorte de coach qui permet à ses utilisateurs de déclarer leurs revenus depuis cette plateforme. Alors concrètement, elle permet de bénéficier d'un délai d'un mois pour faire parvenir les déclarations de revenus de ses clients. Cette tolérance qui a été accordée dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Tacotax s'adresse principalement à certains peut-être d'entre nous, aux phobiques administratifs. Vous savez, ces contribuables qui sont souvent dépassés par les déclarations de revenus, la paperasse, etc. Tacotax est là, elle est gratuite. Il paraît qu'elle est simple et facile d'utilisation et elle prétend pouvoir permettre à ceux qui l'utilisent d'économiser en moyenne 675 euros sur leurs impôts. Bonjour Aldric Limier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Tacotax. Alors vous, concrètement, comment vous pouvez m'aider à remplir ma déclaration de revenus ?
Voilà, donc vous l'avez très bien résumé. Tacotax, c'est un site internet qui permet aux particuliers de les aider avec leurs impôts. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des outils et des conseils gratuits qui permettent aux contribuables de faire des économies sur leurs impôts.
Mais je dois vous fournir quoi ?
Alors justement, on a le produit qu'on met en avant en ce moment, c'est en effet un outil de déclaration en ligne. En fait, comment est-ce que ça fonctionne ? L'utilisateur répond à des questions très simples concernant sa situation, comme par exemple, est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quels sont vos revenus ? Et ensuite, notre solution va établir toutes les avantages fiscaux auquel vous êtes éligible. Donc ça, c'est fait automatiquement. Et ensuite, vous validez, le contribuable valide les éléments renseignés et nous transmettons ensuite cette déclaration de revenus à l'administration fiscale.
Vous vous occupez de tout ?
Voilà, on s'occupe de tout et on a même une hotline en interne, si jamais vous avez besoin de comprendre certains mécanismes fiscaux. Donc des personnes qui vont vous répondre au téléphone et vous guider pas à pas pour faire votre déclaration sur le site de Tacotax.
Pour qu'on n'oublie pas de cocher une petite case, par exemple, dans la déclaration.
Voilà, exactement. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de niches fiscales qui sont méconnues des Français. Je pense par exemple aux frais réels ou même des gens qui font des dons. Il y a 4 milliards de dons qui sont faits chaque année, sauf qu'il n'y a que 2,5 milliards qui sont déclarés aux impôts. Donc des gens oublient en fait de défiscaliser certaines dépenses qu'ils font lors de leur vie quotidienne. Donc en fait, nous, la solution a deux avantages. Le premier, c'est de faire des économies, comme vous l'avez dit, des économies moyennes de 700 euros environ par déclaration.
Vous allez intéresser du monde. Hein.
Voilà. Ouais. Et le deuxième avantage, vous faites votre déclaration en quelques minutes et puis ensuite, vous pouvez passer à autre chose.
Alors, elle est gratuite, la plateforme ? Vous financez comment ?
Alors, pour les utilisateurs, c'est 100% gratuit. Le modèle économique de Tacotax consiste à être rémunéré par des partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats fiscalistes, des promoteurs immobiliers, qui vont prendre la main de nos clients pour leur proposer des produits de défiscalisation et des produits financiers si nos clients souhaitent réduire leurs impôts.
Que dit notre coach Mercedes à propos de cette solution?
Je vais appeler. Hein.
Ouais, nous aussi, on va tous appeler.
J'ai compris, je fais rien.
On fait toi notre place et ça nous coûte rien en plus.
Voilà des services malins, intelligents. C'est vrai qu'on a beaucoup de papiers. Les gens nous racontent tous qu'ils sont envahis, que c'est fatigant, que l'administration prend le pas sur beaucoup de choses. Là, c'est une aide. Chaque fois qu'on intervient et qu'on a une utilité, ça marche quand même.
Alors, vous pouvez nous aider, mais quelle est votre part de responsabilité en cas d'erreur? Parce que vous n'êtes pas non plus 100% sûr, j'imagine.
Alors, en effet, nous, on a des experts impôts en interne. On a des avocats fiscalistes qui nous ont aidés à construire la plateforme. On fait aussi appel à des avocats en externe pour les périodes de pic. Mais la responsabilité est chez le client. Donc, c'est important que le client renseigne les bonnes informations. On est assez vigilant et on leur explique que la véracité des informations est très importante. Et ensuite, on fait valider la déclaration par le client en lui expliquant que c'est sa responsabilité. Et en cas de problème, mais on n'a pas eu de sujet comme ça pour le moment, nos conseillers sont là pour les aider.
Vous dites pour le moment, vous avez commencé quand ?
Alors la société a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc
combien d'utilisateurs à ce jour?
Là, 300 000 maintenant et on va viser les 500 000 pour la fin de l'année.
C'est Tacotax, c'était la solution aujourd'hui. Merci à Mercedes Serra qui a fait sa première avec nous dans l'équipe des coachs. On ne se retrouve pas demain, mais jeudi. Demain, c'est dommage, on parle mathématiques.
Ça va être formidable.
Mathématiques, vous allez voir.